podcasts de Radio Vatican.
Rappelez-vous, en 2014, prenait fin l'aventure Mille et une fois, l'incroyable odyssée humaine et spirituelle d'un jeune Français, Vincent Gelot, embarqué à bord d'une sympathique 4L à la rencontre des communautés chrétiennes d'Orient, un périple que Radio Vatican avait fidèlement suivi. 2 ans de voyage, 60 000 kilomètres parcourus, 22 pays traversés, Vincent, le pèlerin aventurier, s'immerge alors dans les réalités complexes, plurielles et fascinantes du christianisme oriental. Les dizaines de communautés qu'il rencontre sur son chemin, certaines persécutées, d'autres interdites ou encore menacées de s'éteindre, lui parlent de leur vie, de leurs martyrs, de leurs craintes, de leurs espérances et surtout de leur foi ardente et authentique. Au fil de son aventure, Vincent s'adonne à un méticuleux travail de photos, d'enregistrements, de prises de notes, recueille également d'innombrables témoignages, prières et dessins, précieuses traces vivantes qu'il met en forme et publie aujourd'hui dans un ouvrage, Chrétien d'Orient, périple au cœur d'un monde menacé, aux éditions Albin Michel, qui raconte ses 2 années de voyage. Vincent Gelot, aujourd'hui chef de projet pour l'œuvre d'Orient, à qui seront d'ailleurs reversés les droits d'auteur, revient avec nous sur la particularité de cet ouvrage et sur la nécessité pour lui de partager les expériences de son aventure.
D'abord, durant ces 3 années, entre 2014 et 2017, il s'est passé beaucoup de choses. En 2014, à la fin de mon voyage, l'organisation État islamique déferle sur Mossoul et sur la plaine de Ninive. Et c'était des zones où j'étais passé avec ma 4L et où les gens m'avaient accueilli et donné l'hospitalité. Donc j'ai eu très envie de retourner là-bas, et donc j'y suis retourné à la fois pour participer à la création d'une radio associative qui s'appelle Radio Al Salam, qui était une radio pour les réfugiés et les déplacés qui venaient d'arriver, donc qui étaient chassés de leur terre et qui arrivaient sur le Kurdistan irakien. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à être l'antenne de l'œuvre d'Orient. Et voilà, et donc j'ai été un peu embarqué une nouvelle fois dans une autre aventure qui m'a un peu cloué en Orient. Et c'est vrai que tout ça a joué, à faire un peu traîner l'écriture du livre et en même temps a permis de le maturer, de le mettre en place jusqu'à aujourd'hui. Donc ces 3 années ont été vraiment bénéfiques et je suis content que ça sorte aujourd'hui et finalement pas juste après le voyage.
Alors expliquez-nous un peu de quoi se compose ce livre, quelle est sa particularité, quel est son apport principal ?
Alors ce livre, en fait, déjà c'est une belle bête, hein, c'est 272 pages. Donc le but c'est d'embarquer le lecteur avec moi dans la 4L à la découverte des chrétientés orientales, donc de l'Orient, du vaste Orient disons, donc à peu près 22 pays. Donc du Liban à l'Afghanistan en passant par les pays d'Asie centrale, le Yémen, l'Égypte, le Soudan, l'Irak, etc. Des pays connus à cause de l'actualité comme la Syrie et l'Irak, d'autres moins connus comme le Tadjikistan, le Kyrgyzstan. Et donc ce livre se présente comme un carnet de voyage, donc avec des photos, c'est un livre illustré, avec des photos, des légendes, des textes de présentation. Et à l'intérieur donc du livre, le lecteur peut découvrir à la fois des focus sur certaines personnes qui ont marqué mon voyage, par exemple un père dominicain de Mossoul ou un docteur un peu fou en Éthiopie, etc. Donc des rencontres un peu fortes. Et puis surtout, il y a des extraits du livre d'Orient. Le livre d'Orient, c'est un livre qui voyageait avec moi et qui était un peu un relais de communauté en communauté, parce que je faisais écrire les communautés que je rencontrais dans ce livre. Donc les gens écrivaient leurs témoignages, quelle était leur vie, leurs difficultés, leurs craintes, leurs espérances. Et puis parfois, ils rivalisaient de créativité, ils faisaient des dessins, des poèmes, des fresques. Et ce livre est donc assez fort, assez beau. Et donc il y a un espace dans le livre qui est dédié aux témoignages. Que disent ces chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Avec, vous imaginez, toutes sortes d'écritures. Il y a une 20aine de langues et dialectes dans ce livre. Et puis, pour finir, il y a le livre est parsemé de flashcodes qui permettent d'écouter des sons. Parce que durant ce voyage de 2 ans, j'ai enregistré ça et là des chants sacrés lors des différentes liturgies. Le lecteur peut, avec une application, écouter les chants des différents rites, des différentes liturgies, des différentes communautés qui parsèment le livre.
Alors, 3 ans après la fin de cette aventure, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur cette expérience ?
En fait, je dirais qu'il y a eu 2 étapes. Le moment du voyage, pour moi, c'était un moment très fort parce que j'étais seul. C'était une expérience presque monastique, hein, tout seul, de pays en pays, de voyager comme ça pendant 2 ans où j'étais loin de mes proches, de ma famille, de mon pays. Mais c'était aussi, il y avait une forme de lyrisme aussi dedans. J'étais en itinérance, tout était très fort, il fallait passer les frontières, rencontrer de nouvelles communautés, avancer toujours plus loin. Et puis, à mon retour, je suis retourné en Orient, mais cette fois j'étais sédentaire. J'ai été vécu à peu près 1 an et demi en Irak, maintenant j'habite au Liban. Même si je fais des sauts de puce de pays en pays, maintenant, depuis j'ai J'ai une famille, je suis marié, j'ai un petit bébé, etc. Donc la vie a changé, mais maintenant je suis passé du, disons, du temps du lyrisme au temps de l'engagement. Et voilà, donc maintenant mon engagement se trouve aux côtés des chrétiens d'Orient, à travers ce que je fais pour l'œuvre d'Orient.
Donc vous estimez que c'est votre responsabilité de raconter ces communautés, de raconter leur vie, leurs craintes, leurs joies et leurs espérances.
Tout à fait. Ça aurait été un gros gâchis, je pense, de garder tout ça pour moi. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre encore de l'Orient chrétien. Il a beaucoup à nous apporter. Dans ces temps, enfin voilà, en ces temps troublés, c'était important de dire quelles étaient les communautés de ces pays-là, découvrir voilà qu'il finalement il peut y avoir des chrétiens en Afghanistan, en Azerbaïdjan, dans des pays assez mal connus, et puis que même malgré ce qu'on entend dans l'actualité, dans des pays comme la Syrie et l'Irak, il y a des choses encore très belles qui s'y passent. Donc c'est un livre assez dur, parfois, parce que voilà, on rentre dans le vif du sujet, c'est une rencontre avec les communautés, avec ce qu'elles vivent, avec ce qu'elles souffrent, avec les injustices parfois dont elles sont victimes. Mais c'est aussi un livre qui montre beaucoup de beauté, beaucoup d'espérance. Ces communautés sont bien vivantes, elles ne sont pas mortes. Elles continuent d'espérer et d'aller de l'avant. Et elles sont surtout orientales, donc elles sont originaires de ces pays-là. Voilà, alors après, bon, le livre est vaste, vous imaginez, c'est aussi un livre de voyage, hein, c'est une découverte. Ce voyage s'est fait en 4L, alors c'est aussi une aventure humaine et mécanique. Et donc, c'est aussi, voilà, à travers ce voyage, c'est aussi une découverte un peu de ces pays-là, ces paysages, ces peuples qui vivent dans cet Orient-là.
Alors, c'est une question un peu piège que je vais vous poser, mais si vous deviez retenir aujourd'hui une ou deux rencontres particulièrement fortes, marquantes de ce voyage, quelles seraient-elles ?
Les rencontres qui m'ont marqué au Proche et Moyen-Orient, il y en a eu plusieurs, je vais en citer une qui était en Ouzbékistan, qui était un prêtre donc, que j'ai rencontré au cours de mon voyage, qui s'appelait le père Yaroslav, qui était surnommé le prêtre des Gitans, je l'évoque dans mon livre, qui était un prêtre donc, polonais qui avait grandi en Russie pendant l'époque soviétique, donc quand l'église était interdite, puis il avait été prêtre dans les steppes de Sibérie, traversant des milliers de kilomètres d'une paroisse à l'autre pour rencontrer quelques familles. Il avait été expulsé par Vladimir Poutine en 2002 quand Poutine était à la tête du KGB, puis il s'était retrouvé à la tête d'une petite communauté clandestine donc d'Ouzbékistan, c'est là où j'ai rencontré. Donc clandestine parce que c'était interdit, ils n'avaient pas le droit de se rassembler, quoi. C'est un pays qui est très dur envers les communautés chrétiennes, etc. Et donc ce prêtre m'avait beaucoup marqué parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup souffert, qui portait vraiment le poids de sa communauté dans l'ombre, quoi. Et pour moi, il était à l'image de tous ces missionnaires, tous ces prêtres, ces religieuses éparpillées à travers le monde, qui œuvrent, pas pour la gloire, pas pour même convertir les autres, mais juste pour donner un témoignage de Dieu. Et ce prêtre m'avait beaucoup marqué, et peu de temps après mon passage, il a été expulsé. Et maintenant, il est missionnaire, dernière nouvelle, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ça, c'était une rencontre. Et la deuxième rencontre, pour faire plus rapide, ben, le père Tom, qui est un prêtre au Yémen, qui a été kidnappé pendant à peu près 18 mois par des membres de l'EI, qui avait été kidnappé en même temps que le massacre des sœurs de Mère Teresa, qui vient d'être libéré. Donc, ben, c'est quelqu'un avec qui j'étais en contact avant, quand je préparais mon voyage sur le Yémen. Et donc ça, c'est des petites choses qui marquent aussi. Voilà.
Alors pour finir, une question que tout le monde se pose. Vous évoquez à de nombreuses reprises votre fameuse 4L, la petite voiture avec laquelle vous avez parcouru tous ces kilomètres et qui a vécu avec vous toutes ces aventures. Qu'est devenue aujourd'hui cette petite voiture ?
Alors bonne question. Cette 4L, d'abord, quand j'ai terminé mon voyage en Terre Sainte, je l'ai ensuite ramenée en France. Et pendant 3 ans, bah, elle a un peu croupi en France. Pendant tout le temps que j'étais au Proche-Orient, bah, elle est restée en France. Et aujourd'hui, en fait, donc l'Institut du Monde Arabe organise une grande exposition qui s'appelle 2000 ans chrétiens d'Orient, qui aura lieu de septembre 2017 à janvier 2018, dans laquelle le livre d'Orient va être exposé à la fin de l'exposition, comme un témoignage finalement vivant et actuel de ces chrétientés orientales. Et la 4L va être exposée sur l'esplanade de l'Institut du Monde Arabe, parce que cette 4L, c'est pas juste une voiture, une 4L, elle a quand même traversé, disons, les lieux clés du christianisme oriental. Elle est passée par la Mésopotamie, l'Égypte, la Terre Sainte. Et puis, elle est décorée avec des symboles de l'Orient chrétien. Il y a une fresque, il y a des symboles, il y a des croix, donc il y a des poissons, de la vigne, etc. Enfin, elle est assez jolie, elle est très visuelle. Et puis les gens que je rencontrais parfois écrivaient, enfin, disons, ils laissaient un signe caractéristique de leur église ou de leur communauté. Donc ce sera un peu un tape à l'œil, quoi, placé sur l'esplanade de l'Institut du Monde Arabe. et qui permettra finalement aux badauds qui passent dans la rue ou aux curieux de découvrir à travers avec cette accroche de la 4L, qui est un véhicule sympathique, voilà, rustique, de découvrir un peu voilà, ce voyage et à travers ce voyage de découvrir les chrétiens d'Orient.
Des propos recueillis par Manuela Affigy.